Radio Okapi. Écho des développements. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui s'intéresse aujourd'hui à la contribution des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou. Paul Badianyama s'occupe de la prise de son sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les forêts du bassin du Congo sont essentielles à la régulation du climat mondial et à la protection de la biodiversité. Pour permettre une gestion durable des forêts de cet espace géographique, il faut promouvoir la bonne gouvernance forestière et le développement endogène de la population locale. Quel est l'apport des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo? Quels sont les défis liés à la gestion rationnelle des forêts du bassin du Congo? Comment mettre fin à l'exploitation illicite des ressources des forêts du bassin du Congo? De plus amples détails au cours de ce numéro des Codes du développement. Nous débutons notre magazine par la déclaration de M. Fabien Mungunza, président de la Société civile de l'Équateur, qui dénonce la mauvaise gestion du secteur de l'environnement en RDC. Il évoque également le cas du jardin botanique de Yala, situé dans la ville de Mbandaka, qui est presque à l'état d'abandon depuis les années 90. Nous allons l'écouter.
Le secteur environnemental de la province de l'Équateur présente des potentialités considérables dans les domaines du sol et sous-sol, de la forêt qui couvre 72% de sa superficie, de la faune et de la flore comprenant plusieurs espèces végétales et animales de haute valeur, ainsi que de l'air non pollué. Cet environnement, jadis prospère, est cependant menacé par plusieurs contraintes, notamment la déforestation due surtout à l'exploitation illicite des bois d'œuvre, le braconnage, l'agriculture itinérante et surbrûlée, les érosions, les feux de brousse, les caractères lacunaires et la faible application des textes légaux et réglementaires, la corruption, le manque de politique de gestion des déchets, et j'en passe. Ce qui engendre une dégradation progressive de la biodiversité et du cadre de vie. La superficie de la forêt, dont le rôle dans la régulation climatique n'est plus à démontrer, ne fait que régresser. Le cas le plus symptomatique de cette évolution est la situation présente du jardin botanique de Yala. En effet, le jardin botanique de Yala a été créé le 3 février 1900 sous l'impulsion du botaniste et naturaliste Émile Laurent. Site touristique de la province, il a été créé pour assurer la conservation des espèces locales et introduites, l'augmentation des collections vivantes afin de servir de base à la sélection et au remplacement d'autres plantes disparues. Plusieurs plantations industrielles doivent leur création au matériel sélectionné dans ce jardin. Il était considéré comme le troisième jardin tropical du monde, après ceux du Ceylan et de Java en Asie. Aujourd'hui, plus rien de tout cela, à l'image de la dégringolade qu'a connue le pays dans tous les domaines, à cause de la mauvaise gouvernance. Ce jardin n'est plus que l'ombre de lui-même. La société civile veut une gestion durable de l'environnement, c'est-à-dire une gestion qui allie à la viabilité économique pour permettre aux entreprises de continuer à produire des richesses, la prudence écologique pour éviter la dégradation irréversible de l'environnement et la justice sociale distributive pour lutter contre la pauvreté des populations. Ce qui passe par l'amélioration de la gouvernance globale du pays en général et en particulier celle du secteur de l'environnement, notamment par les renforcements et l'application sans complaisance des textes légaux et réglementaires, ainsi que la lutte sans merci contre l'impunité.
Nous venons là de suivre la réaction de M. Fabien Mungunza qui dresse un tableau sombre en ce qui concerne notamment la gestion des forêts du bassin du Congo. Lorsque l'on parle des forêts du bassin du Congo, il faut savoir que c'est une zone géographique qui couvre certains pays de l'Afrique centrale, selon le professeur Jean-Paul Seguihobe, expert en droit de l'environnement.
Voilà, le bassin, c'est d'abord une zone géographique s'étendant sur les territoires de deux ou plusieurs États et déterminée par des limites d'une aire d'alimentation du réseau hydrographique et autre chose, et ce, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. Alors, en ce qui concerne le bassin du Congo, évidemment, plusieurs experts s'accordent à dire que les forêts, ces forêts constituent, après celles de l'Amazonie, le deuxième massif forestier au monde. Ça, c'est juste une répétition. Mais ces forêts ou ces massifs forestiers sont implantés sur une superficie de 180 millions d'hectares et forment le bloc oriental des forêts guinéo-congolaises qui s'étendent des côtes atlantiques à l'ouest jusqu'aux montagnes du Rift Albertain à l'est. Et là, souvent lorsqu'on parle du bassin du Congo, et généralement en ce qui concerne les forêts du bassin du Congo, on voit les six États, les grands six États forestiers, notamment la RDC, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais comme on tient compte justement de la donne bassin, et le bassin étant aussi alimenté par notamment de sources d'eau, on y intègre aussi des États comme l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. Donc quand on prend le tout sur le plan géostratégique, les forêts du bassin du Congo sont essentiellement en Afrique centrale, mais touchent aussi l'Afrique de l'Est. Là aussi, il y a le bassin du Nil et aussi l'Afrique australe. Et je voudrais attirer l'attention, et là je vais terminer, pour dire que faudra pas confondre le bassin géographique du Congo du bassin conventionnel, lui qui a été évidemment déterminé par la conférence de Berlin de 1885. Et le bassin conventionnel concernait essentiellement ce qu'était l'État indépendant du Congo à l'époque.
Les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième massif forestier tropical du monde après les bassins amazoniens, indique le professeur Ursule Lelo Dimakungu, directeur du laboratoire interdisciplinaire des droits et des développements durables.
Les forêts du bassin du Congo, s'il faut le dire, est le deuxième massif de forêts tropicales après l'Amazonie, avec une couverture d'environ 150 millions d'hectares de forêts denses. Ces forêts s'étendent du Cameroun à la République démocratique du Congo, en passant par le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Voilà l'essentiel des pays qui couvrent le couvert forestier du bassin forestier du Congo.
Ces forêts denses et humides couvrent environ 2 millions d'hectares, dont plus de la moitié se trouve en RDC. Cette région présente une variété de paysages et d'écosystèmes divers, en passant par des rivières aux marécages, de la savane aux forêts inondées, ajoute le professeur Jean-Paul Seguihobe, nous rappelant qu'il est spécialiste en droit de l'environnement.
La biodiversité du bassin du Congo est d'importance considérable. Je dirais à la fois par le nombre d'espèces trouvées dans la région, mais aussi au niveau du nombre d'espèces florales et fauniques qui n'existent pas ailleurs sur la planète. En fait, les forêts du bassin du Congo, lorsque vous les analysez, vous trouverez que elles sont habitées par l'assemblage de diversifié de plantes et d'animaux. Et les études montrent que on peut y trouver plus de 400 espèces de mammifères, plus de 1000 espèces d'oiseaux et probablement 10 000 espèces de plantes, dont 3 000 sont endémiques, ce qui est une richesse de biodiversité exceptionnelle. Et puis, par rapport à leur taille, vous avez une réserve pratiquement de carbone d'importance mondiale pour la régulation du climat. Aujourd'hui, on parle de questions de changement climatique. Effectivement, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle on ne peut plus capital, que ce soit au niveau régional et même local, mais aussi parmi les potentialités, il faut ajouter le fait que ces forêts assurent le recyclage de l'eau, qui est un véritable problème pour une grande partie de l'Afrique. Et puis, la richesse de la biodiversité de ces forêts constitue aussi une ressource incommensurable pour des dizaines de millions d'êtres humains qui y vivent et qui en dépendent.
Les massifs forestiers du bassin du Congo est une méga biodiversité, renchérit le professeur Ursile Lelodi Makungu. Nous rappelons qu'il est le directeur du laboratoire interdisciplinaire des droits et de l'environnement durable. Les forêts du bassin du Congo constituent l'habitat de nombreuses espèces emblématiques et parfois menacées, comme les gorilles des montagnes, les éléphants des forêts ou les bonobos.
Les massifs forestiers du bassin du Congo est une méga biodiversité. Les forêts du bassin du Congo couvrent une richesse inestimable. Juste la République démocratique du Congo, qui a la grande majorité de cette couverture forestière, a 415 espèces de mammifères, 11 000 sortes de plantes, 1117 espèces d'oiseaux et près de 1000 variétés de poissons d'eau douce, sans compter les espèces iconiques comme les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, les éléphants de forêt et voire les okapis qui sont parmi les espèces les plus emblématiques et extraordinaires de la biodiversité.
Radio Capi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Capi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Capi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Si vous nous prenez en cours de diffusion, sachez que vous êtes en train de suivre Écho du développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et de développement durable qui s'intéresse aujourd'hui à la contribution des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo. Quels sont les textes juridiques qui réglementent les forêts du bassin du Congo? Le professeur Jean-Paul Seguihobe, expert en droit de l'environnement, répond.
Il n'existe aucun instrument juridiquement contraignant en ce qui concerne les forêts. Il y a eu enlisement depuis plusieurs années sur les négociations internationales qui ont été lancées depuis déjà, disons, 1990, lorsqu'on préparait Rio, disons, 1992. Pratiquement, il y a eu un bras de fer entre les États développés et les États moins développés. Et on n'a pas réussi, en marge de la conférence de Rio, à trouver, contrairement à ce qu'on voulait, une convention internationale contraignante en ce qui concerne les forêts. On a plutôt eu une déclaration de principe. D'ailleurs,
qu'on appelle non juridiquement contraignante, mais faisant autorité pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation de tous les types de forêts. Donc, en tout cas, au niveau international, il n'y a pas encore une convention qui oblige les États. Par contre, nous pouvons dire qu'il y a eu, partant de ces principes, des conventions internationales qui, de manière indirecte, font allusion au rôle éminent que peuvent jouer les forêts. Et c'est notamment quelques conventions multilatérales. En l'occurrence, le plus pertinent, je peux citer celles qui sont sorties justement de la conférence de Rio de 92, la convention sur les changements climatiques. Et aujourd'hui, avec toutes les COP que nous avons et qui se succèdent, effectivement, c'est pratiquement, j'allais dire, suite de l'esprit de Rio en ce qui concerne les changements climatiques. Nous avons la convention sur la diversité biologique, toujours de 1900. Mais nous avons aussi la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, elle qui date de 94. Mais il y a aussi d'autres conventions, et entre autres la Convention de Ramsar sur les zones humides, qui revient un tout petit peu sur le rôle que peuvent jouer les forêts. Vous avez aussi, et là pour la RDC c'est connu, la Convention de 1972, de l'UNESCO, négocié dans le cadre de l'UNESCO, du patrimoine mondial.
La RDC et les autres pays de l'Afrique centrale qui partagent les massifs forestiers du bassin du Congo ont ratifié quelques conventions à caractère international et régional, précise le professeur Ursile Lelodi Makungu. Nous rappelons qu'il est le directeur du laboratoire interdisciplinaire des droits et des développements durables.
Nous pouvons citer la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington DC le 3 mars 1973, qui a été amendée à Bonn le 22 juin 1979. En dehors de ça, nous avons la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. On peut aussi ajouter d'autres instruments juridiques comme la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, appelée aussi Convention de Ramsar, qui a connu quelques amendements, notamment l'amendement de Regina du 28 mai 1987. Et sur le plan africain, on peut noter aussi d'autres progrès à travers la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, appelée Convention d'Alger, avec quelques modifications. Et au-delà de ça, nous avons l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux. Et sur le plan universel, nous avons des instruments très importants, tels que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992. Nous avons également la Convention sur la diversité biologique, toujours de 1992. Nous avons le protocole de Kyoto qui a été modifié et remplacé par la Convention qui a été remplacé par l'accord sur le climat de Paris, ce qui permet un peu aux différents États de mettre en place une politique de convergence avec les mêmes objectifs pour atteindre les mêmes résultats en évitant les erreurs de passé, de juxtaposition, de contrariété des politiques forestières pour que le bassin forestier du Congo soit préservé.
Il faut noter que les conflits armés ont eu un impact négatif sur les forêts du bassin du Congo. Les Nations Unies recourent souvent à la voie diplomatique pour amener les acteurs concernés à mettre fin à cette pratique. Il est important de prendre des mesures contraignantes à l'intention des auteurs de ces conflits armés qui ont des incidences sur l'environnement, soutient le professeur Jean-Paul Seguihobe. Nous rappelons qu'il est expert en droit de l'environnement.
La première des choses, je pense, est de mettre fin à toutes sortes de belligérances. Bon, dans le cas des Nations Unies, déjà, je dis que la voie diplomatique reste privilégiée et les Nations Unies doivent accompagner les États. Mais nous savons qu'il y a toute une grande hypocrisie derrière, évidemment, la diplomatie. Mais nous savons que tous ces conflits armés, qu'ils soient nationaux, internationaux, sont téléguidés de quelque part. Vous l'avez dit que c'est un secret de Polichinelle. Et aujourd'hui, ces fameux armées qui occupent nos forêts, les aires protégées et qui tuent les populations de nos États, ont des motifs connus. Mmh. C'est l'affairisme comique. Et derrière cet affairisme, vous avez des entreprises multinationales. Donc il faut qu'il y ait un leadership vertueux et fort, accompagné par une gouvernance exemplaire. Et au niveau de la RDC, par exemple, je pense que il faut des trucs mafieux évoluant dans ce secteur et qui ont pris les pays, je crois qu'il faut le dire, en otage. Combattre l'impunité en commençant, et moi je dirais que l'ennemi ne vient pas nécessairement d'ailleurs, en commençant par sanctionner les hauts gradés de l'armée. Mais on, beaucoup de hauts gradés d'armée sont des affairistes. Et peut-être que la situation des belligérants, c'est étrange. Certains hauts gradés de la police, même de l'administration, qui sont impliqués dans cette situation. Effectivement, il y a aussi, je pense que je suis de plus en plus en RDC ce discours, il faut combattre, et j'insiste, réellement la corruption. Et là, ce n'est pas seulement l'affaire de gouvernants, mais la société civile devait aussi jouer un rôle important. Parce que j'ai l'impression aussi que cette société civile est peut-être aussi inféodée. Alors vous allez voir que effectivement il faut une implication de tout le monde, des acteurs politiques aussi, qui ont une grande responsabilité.
Pour mettre fin à la présence des groupes armés qui squattent les forêts du bassin du Congo, les Nations Unies ont mis en place un groupe d'experts pour documenter sur les cas des auteurs des crimes contre l'environnement, indique le professeur Lelodi Makungu, directeur du laboratoire interdisciplinaire des droits et des développements durables.
Les Nations Unies ont pu jouer un rôle essentiel à travers le panel d'experts pour à chaque fois identifier les acteurs clés de tous ceux qui sont considérés comme pillage des ressources naturelles, d'atteinte aux droits de l'environnement. Et tout ça a conduit à certaines sanctions des autorités militaires, des autorités politiques et aussi des chefs rebelles qui sont appliqués. Mais ces sanctions sont appliquées soit par l'Union européenne, soit par les États-Unis. Mais de l'autre côté, les grandes puissances industrielles de l'Asie ne s'occupent pas des questions de la légalité. La Chine, par exemple, ne s'occupe pas des questions de la légalité et de la durabilité des ressources, au point que s'il y a des exigences pour une gestion durable des ressources au niveau de l'Europe et de l'Asie, le fait que la Chine ne s'occupe pas, tout ce qui est comme illégal prend la direction de l'Asie, et à partir de l'Asie, il y a un éco-blanchiment où on essaie de blanchir tout ce qui était des produits d'origine illégale, criminelle et non durable, et par la suite ça intègre le marché européen et le marché américain, d'où la nécessité de mettre en place une approche polycentrique de nature à pousser tous les États à agir de la même manière, parce que rappelons-nous que les forêts jouent un rôle tout à fait capital pour l'humanité en termes de régulation et de la protection de l'environnement, mais aussi comme puits carbone, et c'est le deuxième poumon. C'est le deuxième poumon vert de la planète, et en conséquence, il est de l'obligation de tous les États en vertu de la responsabilité commune face à l'humanité, que tous les États, que toutes les régions s'impliquent. Mais aussi, on note une certaine impunité parce que la plupart de cette exploitation illégale des ressources, il faut le dire, cette atteinte aux droits de l'environnement et l'œuvre des sociétés multinationales et des acteurs connus, et dans la plupart des cas, il n'y a pas assez de poursuites contre ces acteurs, et cela entraîne une certaine impunité à cause de la fragilité aussi bien de l'État que des autres pays voisins, ce qui conduit à un facteur d'insécurité et à maintenir ces cycles de destruction des écosystèmes forestiers et aussi des paradoxes de surexploitation des ressources et la pauvreté de la population, mais également à créer le recyclage d'insécurité ou la prolifération de l'insécurité et aussi l'accentuation de la faillite de l'État.
La protection des forêts du bassin du Congo passe impérativement par le développement de la population qui vit en grande partie des ressources de ces massifs forestiers. Les Nations Unies doivent, en collaboration avec les gouvernements congolais, initier des programmes de lutte contre la pauvreté dans cet espace géographique afin de protéger les écosystèmes des forêts du bassin du Congo, conclut le professeur Jean-Paul Seguihobe. Nous rappelons qu'il est expert en droit de l'environnement.
Entre autres, le défi en ce qui concerne le bassin du Congo, c'est l'érosion de la pauvreté. Vous avez cette richesse de forêts, mais en même temps, vous avez cette grande pauvreté des populations riveraines des forêts. C'est un grand défi. Vous avez aussi le défi des changements climatiques, nous en parlions tout à l'heure, et surtout le transfert de leurs conséquences d'une génération. Si on ne gère pas correctement cette question, mais c'est des répercussions sur plusieurs années et les générations futures vont en paraître, à en pâtir du moins. Vous avez aussi, je dirais, le défi de la durabilité de la gestion. Parce que souvent on parle de forêts, la gestion, la conservation, mais il y a la dimension de la durabilité. Hein, je pourrais parler d'une durabilité politique. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des principes de politique forestière conséquente, une durabilité économique, hein, écologique, socioculturelle, je parlais là, une durabilité spatiale, hein, comment transformer les villages en villes, le rapport entre ville et village, c'est très très important. On ne construit pas une ville en désordre. Quand je vois comment les villes se développent chez nous, et en l'occurrence Kinshasa, j'ai trop peur par rapport aux questions environnementales. Et il faudrait effectivement que cette durabilité soit accompagné. Il faut qu'on lui assigne un rôle, notamment celui de créer des conditions d'une double solidarité. Moi, je conviens qu'il faut une double solidarité, une solidarité horizontale à l'égard des plus nécessiteux du moment. Il faut qu'il y ait cette solidarité lorsque on doit dire qu'il faut parler des forêts, prendre, obtenir ou gérer les recettes produites par la gestion de ces forêts, mais aussi une solidarité verticale qui doit exister entre les générations. Mais toutes ces solidarités doivent s'inscrire dans la durée. Donc je considère que effectivement il y a beaucoup de choses à faire et le grand défi reste là et toutes les politiques des pays du bassin du Congo et en l'occurrence la RDC doivent s'inscrire non seulement dans la durabilité, mais aussi viser de relever les défis dont je venais de parler.
C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré à la contribution des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo que vous a présenté Tati Mapoukou. Paul Badianyama était à la prise de son sous la coordination et la supervision de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro d'Éco du développement le jeudi prochain. À bientôt.